beginning there, baby. Every morning, every morning, I run in the morning, I run in the morning, between 7 and 8, between 7 and 8. You know why, you know why. It is to lose some weight, it is to lose some weight, to lose some weight. It's a jogging boogie, it's a jogging boogie, it's not a boogie for the human kind. Oh yeah. You know, my pretty baby, sometimes I drink too much. Sometimes I eat too fat. Oh yeah. So I've just pound some load. I have to spend some load. You know where? I spend it on the road. I spend it on the road. I spend it on the road. He's a jogging boogie. He's a jogging boogie. It's not a boogie for the human kind. It's not a boogie, baby, for the humankind. It's not a boogie for the humankind.
Voilà, vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Cisco Ersaf. Bonjour Cisco.
Bonjour.
Donc aujourd'hui on va parler de blues.
Oui, ben, sans doute.
Le blues, vous êtes tombé dedans en étant petit ?
Pas tout à fait, quand j'étais adolescent en fait. J'ai commencé par aimer la folk américaine, le folk song. Et comme il n'y avait absolument rien à se mettre sous la dent en France, j'allais acheter mes disques en Angleterre. J'habitais à Boulogne-sur-Mer, donc non loin de l'Angleterre par la mer. Et j'allais donc acheter mes disques en Angleterre, je me fournissais en folk. Alors, dans les rayons folk des boutiques anglaises, il y avait des blancs, des noirs. Alors, je prenais un peu ce que je trouvais. Et un jour, j'ai ramené un disque de blues. Et là, en écoutant ça, je me suis dit, ça c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé à apprendre la guitare pour jouer du folk et du blues.
Alors, à cette époque, il y avait déjà beaucoup de gens célèbres, hein, qu'on connaissait au travers le monde, qui jouaient le blues.
Oui, il y avait des gens célèbres dans les milieux du blues, alors qu'on connaissait à travers le monde pas tant que ça, pas tant que ça. Il y avait des gens qui étaient vraiment connus dans les milieux de connaisseurs, je dirais. Mais en France, qu'est-ce qu'on trouvait comme disque ? On trouvait même Memphis Slim, parce qu'il vivait en France. Donc il enregistrait pour des maisons de disques françaises. Hein. Il y avait Big Bill Bronzy, parce qu'il était venu en France, alors on trouvait un petit peu. On trouvait Lightnin' Hopkins, un petit peu, mais il fallait fouiller. Et après, il y avait John Lee Hooker, c'était parmi les plus connus. Mais c'était quand même extrêmement difficile à trouver. Il fallait, si j'avais voulu chercher des disques en France, il fallait que j'aille à Paris. Il n'y avait aucun doute.
En 69, quand j'étais étudiant dans cette université, ça remonte un peu aussi, il y avait une discothèque commune donc pour les étudiants et le grand moment d'écoute, c'était celui de John Lee Hooker.
Oui, alors j'ai eu la force qu'il tournait déjà pas mal en Europe puisqu'il avait commencé à tourner en 62 en Europe, John Lee Hooker, et c'est justement en 1969 que j'ai eu l'immense chance de le rencontrer, et il m'a recruté pour l'accompagner sur une tournée, une fin de tournée, je vais dire plutôt, en Europe. Et j'ai joué avec lui 11 concerts entre au mois de, si je me souviens bien, septembre 1969.
Non. Qu'est-ce qu'il a apporté de John Hooker? Il a repris un peu les standards existants, il a créé lui-même ses propres chansons.
Hooker, c'était un créateur. Non seulement il créait ses propres chansons, mais en plus il improvisait tout le temps. Par exemple, pour un même morceau qu'il avait interprété, par exemple, la veille, quand je jouais avec lui, le lendemain, il annonçait le morceau, donc je me disais, ça va, je connais, mais pas du tout, il ne le jouait pas du tout de la même manière. Il le jouait même pas forcément dans la même tonalité. Donc vraiment, c'était une improvisation permanente. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bluesmen. Hein. On a forcément ce qui est gravé sur disque. Donc là, c'est figé pour l'éternité, je dirais, ce qui était gravé. Mais quand c'était des gens qui jouaient, ils ne jouaient jamais deux fois de la même manière les mêmes morceaux.
Alors c'est vrai qu'on repère aussi au travers du temps certains titres qui sont repris par la suite par des groupes, les Rolling Stones ou d'autres. Hein. Donc on voit bien que le blues a marqué toute l'histoire de la pop et voire du jazz aussi.
Les Rolling Stones particulièrement, ils ont déjà pris leur nom d'un titre de Muddy Waters qui s'appelait Rolling Stone. Et leur nom déjà est un hommage à Muddy Waters. Et puis après, ils ont repris effectivement des titres d'artistes plus ou moins connus d'ailleurs. Ils ont repris bien sûr du Robert Johnson, ils ont repris du Muddy Waters, mais ils ont aussi repris des gens comme Fred McDowell ou d'autres hein, qui étaient beaucoup beaucoup moins connus dans l'espace musical, je dirais, du tout venant.
Voilà, et en France, on avait même notre Johnny National qui s'y est mis.
Oui, alors c'est à peu près à cette époque qu'il avait sorti son « Toute la musique que j'aime », qui a fait connaître à beaucoup de gens la musique blues, parce qu'on connaissait avant ça le blues, et d'ailleurs ça reste encore un petit peu, je le rencontre encore dans pas mal de concerts, ça reste la danse, le blues, qui était une danse lente, qui est devenue par la suite le « slow ». Mais avant ça, on appelait ça le blues. Et quand on voit sur des partitions anciennes, même des morceaux de je sais pas, Tino Rossi, par exemple, on va voir marqué blues, parce que c'est le rythme qui est lent, qui est... Alors donc, du coup, beaucoup de gens disent « Ah ben, le blues, c'est lent, c'est triste. » Alors que le blues, ça peut être des boogie-woogie, ça peut être extrêmement, extrêmement joyeux.
Oui, j'allais dire qu'il y avait du blues pour toutes les circonstances de la vie, pour accompagner l'homme, parfois seul.
Le blues, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le bluesman qui raconte son histoire. Hein. C'est ça, le blues. Alors, ça peut être des moments joyeux, des moments tristes, des moments d'humeur, quoi.
Alors, on a tendance un peu à opposer le blues noir et le blues blanc d'Eric Clapton ou d'autres. Qu'est-ce qu'il y a comme filiation, néanmoins?
C'est sûr que les blancs, surtout les anglais, hein, Clapton, en particulier, hein. Ce sont des gens qui ont adoré le blues très très tôt. Clapton avait monté avec des copains un groupe qui s'appelait les Yardbirds, et c'est dans ce groupe qu'il a commencé à jouer du blues. Mais c'était un hommage aux Anglais. Hein. Clapton, les Yardbirds ont invité des gens comme Sonny Boy Williamson, l'harmoniciste. Ils ont invité Howlin' Wolf quand ils étaient passés en Angleterre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui adoraient le blues noir. Pour eux, c'était le blues authentique. Et ils continuent d'ailleurs à rendre toujours hommage à leurs idoles.
Hein. Alors le fait d'avoir démarré musicien donc Johnny Hooker, ça vous a marqué un destin?
Sans aucun doute, parce que quand j'ai joué avec Johnny Hooker, je me suis arrêté de faire de la musique. Je me suis dit, c'est pas la peine que j'essaye de continuer à l'époque pour vivre de la musique. J'avais quand même tenu à peu près 4 ans. En 69, j'avais 22 ans, j'avais commencé à 18 ans à jouer. Et il fallait que je fasse n'importe quoi. Hein. J'avais joué de toutes sortes dans toutes sortes de lieux. Bon, j'étais passé sur l'ORTF hein, quelquefois, mais je jouais là où on me proposait. C'était pas toujours pour du blues. Donc, et quand j'ai joué avec Johnny Hooker, je me suis dit bon, je crois que j'ai fait le top de ce que je pouvais faire. J'arrête. Et je n'ai repris que beaucoup plus tard. Donc, je n'ai repris qu'en 1991.
Donc, cette reprise, elle est associée à un événement particulier de votre vie ou bien...
Oui, oui, bien sûr. J'ai repris, bon, pour des raisons liées à ma vie personnelle, mais aussi parce que je me rendais compte que justement, quand on parlait du blues à cette époque, on parlait de Stevie Ray Vaughan, on parlait d'Eric Clapton, on parlait plus du tout de ces bluesmen qui ont été les véritables créateurs. Et je me suis remis au blues un peu pour faire du prosélytisme du blues. Enfin, il faut dire, j'avais aussi un frère qui est l'historien du blues et qui continuait à me raconter toutes ses découvertes sur l'histoire du blues. Il a écrit de nombreux ouvrages universitaires d'ailleurs que les universités utilisent sur le blues, hein, puisqu'il y a le que sais-je, le blues qu'il a écrit.
Pour illustrer un petit peu votre propos et nous mettre dans l'appétit de ce qui nous attend dans un petit moment encore ensemble, hein, passé ensemble. Vous pourriez peut-être revenir justement sur cette genèse de votre inspiration avec un petit morceau que vous pouvez interpréter.
Shoot you right down. I'm in love with you, baby. Love that is true. Love that is true. I love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you walk when you're walking the talk and you're talking the talk. You knock me out, baby. Yeah. Shake it, baby. Shake it all night long. Shake, shake. Shake it all night long. All right. With you, baby. You knock me out. Right off my feet. Right off my feet. Well, shake it. Shake it all my life. Shake, shake. Shake it all night long.
Cisco Herzhaft sur Radio Campus. Le fait de jouer le blues, c'est quand même extraordinaire. C'est avec un instrument, j'allais dire souvent unique, parfois un harmonica. Certains aussi, bluesmen utilisent ça. On peut faire le tour du monde, non?
Oui. Oui, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un. Bon, le folk aussi, hein. C'est un peu pareil. La folk music, le blues. D'ailleurs, le blues était considéré longtemps comme une folk music. C'est la folk music des Noirs américains. Mais c'est vrai que le blues, on se trimballe avec sa guitare, on peut le jouer partout. Je l'ai fait d'ailleurs pendant des années, hein. Encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des tournées en solo. Par exemple, là, je pars au Canada dans quelques jours, en solo. Bon, il m'arrive aussi d'être accompagné par un groupe, mais là, c'est vrai que c'est plus facile, c'est plus simple, et on se trimballe avec sa guitare. Je vais jouer dans une dizaine de lieux pendant une petite douzaine de jours où je suis là-bas, avec des interviews Radio-Canada, etc. Et c'est vrai que le blues, c'est une musique comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appareils sophistiqués, on n'a pas besoin de samplers, on n'a pas besoin de choristes. On peut le faire, bien sûr, mais on n'en a pas vraiment besoin. Le blues, ça peut s'exprimer avec juste un instrument, une voix, et peut-être même des fois avec des voix seules. Il y a des bluesmen qui étaient enregistrés juste a cappella avec des rythmes, c'est-à-dire taper dans les mains, etc. Il y en a eu pas mal.
Alors, cette simplicité, j'allais dire cette complicité aussi avec le public, est-ce que ça vous permet aussi de faire de belles rencontres ?
Oh oui, ben oui. C'est vrai que, alors c'est ce que je raconte souvent aux autres musiciens, c'est que quand je joue en solo, je suis forcément avec le public. En fait, pas le choix. Je ne peux pas être avec les copains musiciens. Quand je joue avec d'autres musiciens, c'est vrai qu'on a une complicité entre musiciens. Ce qui fait qu'on est moins, avec le public. Alors, quand je joue en solo, je suis avec le public, je n'ai pas le choix. Et là, forcément, après, on discute. C'est-à-dire qu'on va pas s'enfermer dans sa loge après avoir joué ou même avant avoir joué. En général, on discute et puis il y a plein de gens qui viennent me voir. Il y a des très belles rencontres, c'est évident.
Alors, actuellement, qu'est-ce qui pourrait se revendiquer comme légitimement héritier des gens qui ont créé le blues ?
Moi, je crois qu'il y a une musique qui a un peu la même démarche, bien que ça ne soit pas du tout le même registre, le monde a changé, mais qui a un peu la même démarche que le blues, c'est le rap. On raconte aussi une histoire de sa vie, on raconte aussi des choses qu'on ressent, etc. Alors le rythme d'ailleurs du rap est totalement une parenté avec le blues, hein, en passant par le rythme et le blues, et puis après le disco, et puis après la soul, etc. Il y a une parenté. Et il y a des rapprochements qui ont pu être faits. J'ai d'ailleurs un morceau sur mon dernier CD où il y a une petite parenthèse rap par un chanteur qui fait du rap dessus pendant quelques secondes. Hein. Mais c'est tout à fait bien sûr en parenté, donc c'est tout à fait faisable.
In a half reservation, I feel like a warrior. Oh, 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 oh. You know what they say. You know what they say. No more smoking. No more drinking, no more fun. Going around, be happy, be sunny. You stay young, never wrong. They locked me in the vanity, in the vanity. Locking a house in the vanity.
Like a warrior, like a warrior, stuck in hell like a man who's family, born beautiful, ruler and a fool. stuck in jail like a man in a storm. I won't take your pill, but my heart is still warm, warm. Hell, I wanna breathe. You wanna kill me, gonna have some bruises. Oh, please, you wanna chew my brain. I would feel better, would feel no pain. Well, sorry, man, but I like you tasty. You ain't gonna chew the end of my story. Well, sorry, man, but I like you tasty. You ain't gonna chew the end of my story. I'm lost.
You know what I say?
I know.
See your doctor to live longer. Don't be nervous.
No.
Don't be anxious. Take your pills, but pay your bills. What you need, eat sesame seeds. We're better than you.
Yeah.
We're better than you. Is good for you. What is good for you?
Oh yeah.
Please don't care. Please don't care. We'll be there. That welfare, welfare. Stay happy. Watch the TV. They like me. They like me.
No.
In the vanity. In the vanity. Walking a half in the vacation. Walking a half in the vacation. Walking a half in the vacation. I feel,
you feel,
I feel,
you feel,
I feel,
you feel
like a warrior.
Oh yeah,
like a warrior.
Voilà, Feel Like a Warrior, donc Cisco Herzhaft, extrait de l'album The Cisco's System, un album qui est sorti l'an dernier, en 2010.
Oui, mi-2010, on va dire, officiellement fin 2010. Et c'est un album que j'ai enregistré d'ailleurs non loin d'ici, à Moucron, avec un studio de jeunes passionnés de musique qui s'appelle Go Recordings, qui est vraiment, ils ont fait un travail magnifique avec des moyens plutôt modestes, on va dire, mais ce sont des passionnés de musique.
Au-delà de ça, en Belgique, on peut dire que le blues se porte bien. Il y a des festivals de blues. Hein.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est le pays d'Europe où il y a le plus de festivals de blues.
Est-ce qu'il y a des bluesmen en résidence aussi là-bas, des gens qui sont venus des USA, qui ont fini leur carrière ou
oui,
qui ont voulu trouver un peu de sérénité dans un pays comme la Belgique?
Oui, il y en a qui sont restés en Belgique. Il y en a qui sont restés. Jenny Taylor, il vient en Belgique. C'était un des musiciens des Candy Heat.
Ah, ok.
Oui,
oui,
et
je me souviens.
C'était okay. Le pianiste des Candy Heat.
Mm-hmm.
Après, il a joué avec les Fabulous Thunderbirds, Jimmy Vaughan, le frère de Stevie Ray.
Mm-hmm.
Et là, maintenant, il fait une carrière solo. Il vit en Belgique, apparemment. Il coule des beaux jours. Il y avait aussi Champion Jack Dupree, mm-hmm, un pianiste de la Nouvelle-Orléans, qui a fini par s'installer en Belgique. Mais il faut dire aussi qu'il avait une parenté belge, puisque son père était un Congolais du Congo belge.
D'accord.
Et sa mère était une Américaine de New Orleans.
Mm-hmm. Alors, on a parlé tout à l'heure du rap, donc qui peut être quelque part dans l'héritage du blues, au moins pour peut-être le propos, pour l'engagement. On va dire ça.
Oui.
L'aspect un petit peu, on va dire, nostalgique, l'aspect un peu blues à l'âme, on va dire, on le retrouve plutôt dans quelle catégorie de successeur?
Dans le blues, parce qu'il continue à vivre quand
bien
même.
Sûr, ouais.
Il continue à vivre. Et je pense que ça, c'est bon. Il y a plein de gens qui ont exprimé ça avec d'autres musiques que le blues. Mon frère a l'habitude de dire que le blues français, c'est Georges Brassens.
Ah oui.
Parce que il exprimait aussi quelque chose de personnel, en plus de quelque chose qu'il avait toujours vécu, hein. C'est des choses qu'il racontait de sa vie. Et puis, en plus, avec ce côté nostalgique, ce côté. Et c'est vrai qu'il y a des chanteurs qui ont gardé cet esprit avec une toute autre musique. Je ne crois pas que ce soit propre au blues, cette nostalgie.
Alors, le blues, souvent, au niveau des paroles, on a des choses qui sont relativement simples, je veux dire, pour tout public, dans le sens où l'accès au public est facile. Pour les paroles de Brassens, parfois, ça demande un petit peu de connaissances culturelles.
Oui, alors le blues a connu un tournant important dans les années, je dirais, fin des années 60, où les paroles sont devenues beaucoup plus élémentaires, on va dire. Mais auparavant, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait de très 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 belles paroles, et en plus avec des sens cachés, des codes d'accès entre noirs. Par exemple, dans le Mississippi d'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des paroles qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des universitaires américains qui s'y intéressent beaucoup. La littérature américaine s'est emparée des paroles de blues. Je vais juste vous donner un exemple. Souvent, ils parlent des women, hein, des femmes. Dans les vieux blues, en détestant les femmes. Généralement, c'est « Women, you, I don't like you. Women, it's not good for me, etc. You women, etc. etc. » Mais en fait, il faut savoir que quand ils disaient « women », ça ne voulait pas dire les femmes. C'était « white men », les hommes blancs. Alors ça, bien sûr, c'est un code que personne n'avait autre que les bluesmen. Alors, quand un bluesman arrivait dans un camp de travail noir et qui chantait You told me about women, it don't mean me no good, eh bien, ça, c'est sûr que vous parlez des femmes, ça ne me dit rien de bon. Quand tout le monde savait que ça voulait dire, vous me parlez des hommes blancs, ça ne me dit rien de bon. Bon, ben, ça voulait tout à fait dire autre chose.
Alors, à l'origine, ce blues, il se transmettait, j'allais dire, de façon très localisée, enfin par contagion, on va dire. Après, il y a eu les médias qui s'en sont un peu emparés. L'aspect réduit des propos, du sens des paroles, à un moment donné, est-ce que c'est dû au fait que la médiatisation a imposé un petit peu une certaine, comme on a encore maintenant, le politiquement correct?
Moi, je pense que oui. Et le blues s'est dégagé en plus de son côté, héritage d'une ethnomusique, c'est-à-dire héritage de la musique noire et de la ségrégation. Donc, comme ça s'est dégagé de ça avec la fin de la ségrégation, dont on ne va pas se plaindre non plus, et surtout l'appropriation par les blancs de cette musique, puisqu'après il y a eu vraiment des courants de blues blanc autant que de blues noir, hein, à partir des années 60. Et c'est ce qui a fait que les paroles sont devenues beaucoup plus romantiques, beaucoup plus à l'eau de rose.
Je propose que vous nous fassiez goûter encore un peu de votre musique en live sur Radio Campus 106.6 FM.
Mais je vais vous faire un morceau, alors là, de folk blues, parce que le blues n'a pas que ce côté aussi lancinant, il y a aussi des folk blues qui ont donné naissance, qui avaient une parenté avec la country music. Et qui, ce morceau s'appelle Freight Train. Alors, un morceau d'Elizabeth Cotton, qui était déjà une vieille dame quand elle l'a enregistré, puisqu'elle avait plus de 70 ans, alors qu'elle l'avait composé quand elle était une jeune femme. Ça s'appelle Freight Train Blues. Freight train going so fast. Freight train going so fast. When I die, Lord, bury me deep, way down on Chestnut Street, so I can hear on the night as she goes rolling by. Oh yeah. Mm-hmm.
freight train going so fast. Freight train going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they don't know, so they don't know, so they don't know where I've gone.
Cisco Herzaf, donc sur Radio Campus, ce morceau, alors, il y a quelqu'un qu'on a oublié tout à l'heure, enfin que j'ai oublié personnellement, mais je voudrais quand même lui rendre aussi hommage, il s'appelle Daddy.
Marcel Daddy, c'était pas vraiment un ami, mais je le connaissais très bien, on échangeait pas mal de morceaux quand il avait, quand il était consultant, on va dire, il était encore kinésithérapeute à l'époque, et il était consultant dans une boutique à Paris qui s'appelait Quincampoix Musique, rue Quincampoix, Paris. Mmh, mmh. Et après, il a monté ses magasins, donc il fallait régulièrement chez lui pour acheter des cordes, pour acheter, etc. Il m'a même vendu une de ses guitares. Et Marcel Daddy a popularisé le finger style, le picking, comme on dit en France, a popularisé ce qui fait que la France est un des pays où il y avait à l'époque le plus de musiciens de guitare acoustique du monde.
Ah oui.
en proportion.
Alors, non seulement il a vendu des guitares, mais il a aussi appris à s'en servir avec ses méthodes, la méthode à Daddy.
Oui. Oui, ce qui lui a permis d'ailleurs de vivre jusqu'à son tragique accident d'avion, puisqu'il est mort dans l'accident d'avion qui a eu lieu au-dessus de New York en 96. L'avion a explosé, je sais pas, tout le monde se souvient de cette catastrophe.
C'est curieux, on connaît beaucoup finalement de groupes qui sont morts dans des accidents d'avion.
Ben, c'est parce que la plupart des musiciens voyagent beaucoup en avion. Je crois que c'est ça, hein. C'est-à-dire on est souvent sur la route en avion. On fait une vingtaine, trentaine de vols aller-retour par an. C'est sûr qu'on risque plus que quelqu'un qui est bien sédentaire, tranquille à la maison.
Voilà, donc Daddy, hommage à lui, puisqu'il a quand même beaucoup apporté au public français. Et,
sans aucun doute.
Au fait que cette musique traverse les générations.
Oui, mais c'est une musique. Alors ça, par contre, autant le blues, c'est beaucoup pâli, c'est-à-dire que beaucoup de bluesmen sont devenus des bluesmen blancs aujourd'hui. Hein. Il y en a encore des noirs, mais pas autant que dans le temps. Autant dans le style de ce que je viens de jouer, c'est-à-dire le style, ce qu'on appelle le Piedmont blues ou le ragtime blues, ragtime guitar, il y a encore beaucoup de noirs qui cultivent cette tradition. Parmi les plus jeunes.
Alors, Cisco Herzaf, en guise de conclusion, un titre que je vais diffuser maintenant qui s'appelle « Can the Circle Be Unbroken ?»
Alors, « Can the Circle Be Unbroken ?» c'est un morceau de spiritual, c'est un white spiritual, c'est un spirituel blanc. C'est une musique religieuse blanche, mais qui a été interprétée par beaucoup de noirs, hein, dont Johnny Hooker d'ailleurs. Mais c'est à l'origine un spiritual blanc qui avait été popularisé dans les années 1920 par un groupe qui s'appelait la Carter Family.
Bien, merci pour cette précision et puis bon concert, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. The circle being broken by and by, is there a better home awaiting in the sky, when I'm walking near the window in a cold, cold and cloudy day, when I heard that has a coming, which gonna take my baby away. Can the circle be unbroken? and by, by and by, is there a better home away town in the sky, in the sky? I told you the undertaker, undertaker, please drive slow. Call the girl, you're a holin', you know I hate to see her go, yeah. Can the circle being broken? Is there a better home awaiting in the sky, in the sky? I followed just behind her. I was trying to be brave, but I couldn't hide my sorrow when the later he by and by. Is there better home away town in the sky, in the sky? One more. Being broken by and by, by and by, is there better home awaiting in the sky?